Radio Kapi.
Le journal présenté par Belinda Bosuma.
La situation sécuritaire dans l'est de la RDC a continué à se détériorer ces trois derniers mois en Ituri et au Nord Kivu, ce malgré une accalmie dans les affrontements entre le M23 et les FARDC, situation présentée hier devant le Conseil de sécurité de l'ONU à New York par la sous-secrétaire générale des Nations Unies pour l'Afrique. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a déploré dimanche à Mbujimayi une certaine dérive constatée au sein de l'Église catholique. Cette question était au centre du débat hier de l'émission Dialogue entre Congolais. Vous entendrez les avis du directeur adjoint de la cellule de communication de la présidence de la République ainsi que celui du secrétaire général de la CENCO, tous deux invités de l'émission. Madame, Messieurs, bonjour. La situation dans l'Est de la République démocratique du Congo était au centre d'une réunion hier au Conseil de sécurité de l'ONU à New York. Devant cette instance onusienne, Martha Pobi, sous-secrétaire générale de l'ONU pour l'Afrique, a indiqué qu'au cours des trois derniers mois, la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC a continué à se détériorer en Ituri et au Nord Kivu, malgré une accalmie dans les affrontements entre le M23 et les FARDC. Outre les défis sécuritaires et humanitaires dans l'Est du pays, des poches d'instabilité ont aussi refait surface dans l'ouest et le sud du pays. Martha Pobi est particulièrement alarmée, dit-elle, par la restriction de l'espace civique et l'augmentation des discours de haine en cette année électorale. On l'écoute.
La violence persiste dans les provinces de Maïdombe, Kulu et Kwango et s'est étendue à Maluku dans la province de Kinshasa. Ces violences ont causé la mort d'au moins 67 personnes au cours des trois derniers mois. Des tensions et des violences ont également été signalées à Kundu, dans la Tshopo et au Katanga. J'exhorte les autorités à traduire en justice les auteurs de violences et à prendre des mesures pour renforcer la cohésion sociale afin de préserver les acquis en matière de stabilité dans ces régions. La situation des droits de l'homme reste également préoccupante. Je suis particulièrement alarmée par la restriction de l'espace civique et l'augmentation des discours de haine. Je suis également préoccupée par les rapports faisant état d'une augmentation de la violence à l'encontre des femmes leaders politiques et des activistes. J'exhorte les autorités, la société civile et les acteurs politiques à œuvrer à la promotion d'un espace civique pacifique, tolérant et inclusif, en particulier à l'approche des élections de décembre 2023.
Particularly in the run-up to the December 2023 elections.
Par ailleurs, sachez que c'est aujourd'hui que se tient à Luanda, en Angola, le sommet de la quadripartite EAC, CEAC, CIRGEL et SADC sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. 8 chefs d'État africains sont attendus à cette rencontre, dont celui de la RDC, du Gabon, de l'Afrique du Sud, du Kenya et du Burundi. Hier, pendant plus de 4 heures, les ministres des pays membres de ces organisations régionales et sous-régionales étaient en discussion afin d'harmoniser et adopter le texte du communiqué final qui va sanctionner ce sommet. Selon des sources proches de la présidence congolaise, si la réunion des ministres a pris plus de temps que prévu, c'est à la suite des divergences relatives au plan directeur qui devra être mis en place pour le retour de la paix dans l'Est de la RDC. Signalons que la délégation congolaise à Luanda est composée du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, du vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, et du ministre à l'intégration régionale, Mboussa Nyamwisi. Le haut représentant du chef de l'État prend aussi part à ce huis clos. Au Nord Kivu, pendant ce temps, Paul Institute organise depuis hier à Goma un colloque international portant sur l'adhésion de la RDC à la Communauté d'Afrique de l'Est, EAC. À l'ouverture, le directeur de cette organisation nationale a dit que l'objectif est d'associer les experts nationaux et internationaux sur l'analyse des défis, opportunités et enjeux de cette adhésion 2 ans après. Le professeur Néné Moricho donne plus d'éclaircissements au micro de Bernardin Nyangui.
Une grande partie de l'Est du pays commerce avec l'Est du continent. Je vois l'EAC, je vois le COMESA. Donc, de fait, la RDC est déjà intégrée dans cette communauté sous-régionale East African Community et COMESA. Il suffit maintenant de réfléchir très stratégiquement en tant que pays, devant ces faits accomplis, comment nous nous organisons pour tirer profit de cette formalisation de l'intégration régionale dans l'East African Community. Nous connaissons le poids industriel du Kenya. Si nous ouvrons tout de suite les frontières, quel serait le risque économique à prendre? Est-ce que nos entreprises vont résister à la concurrence de ces entreprises provenant de l'East African Community. Voilà un certain nombre d'aspects, des questions qu'il faut mettre sur la table, et ça n'avait pas encore eu lieu au niveau de la société civile. Je pense qu'avec ces colloques, c'est un début. Nous espérons qu'un travail d'engagement politique sera fait après, des plaidoyers auprès des autorités pour leur dire voilà ce qui est ressorti en termes de recommandations sur le plan économique, sur le plan sécuritaire et politique, sur le plan culturel.
Notez que ce colloque des deux jours réunit une centaine de personnes, à savoir des cadres nationaux et ceux venus de l'étranger. Autre nouvelle, désormais tous les taxis avec vitres teintées sont interdits de circuler dans la ville de Kinshasa. C'est l'une des mesures prises par le gouvernement provincial pour faire face à la recrudescence des cas d'enlèvement des passagers des taxis, taxibus et motos qui s'observent actuellement dans la capitale. Selon le ministre provincial de l'Intérieur, ce phénomène est l'œuvre des personnes non autrement identifiées qui volent, violentent et extorquent les biens des paisibles citoyens. Ces mesures sont contenues dans un communiqué rendu public hier par ce dernier. Hamzati nous en parle.
Dans ce communiqué, le gouvernement provincial de Kinshasa dit déplorer cette recrudescence des cas d'enlèvement qui créent insécurité et psychose dans la capitale et perturbe sensiblement la libre circulation des Kinois. Ainsi, pour lutter contre ces fléaux, il affirme avoir pris un certain nombre de mesures. C'est notamment l'interdiction des circulations des taxis avec vitres teintées, le respect de la limitation du nombre de passagers essentiellement pour les taxis et les motos, l'affichage visible par les taxis, taxibus et motos du numéro d'identification, mais aussi le signalement par les transporteurs des intrus dans leur corporation. Par ailleurs, l'exécutif provincial de Kinshasa appelle à la vigilance et à dénoncer tous les suspects et leurs complices qui s'évertuent à troubler la quiétude de la population kinoise afin qu'ils subissent la rigueur de la loi. Toutefois, le ministère provincial de l'Intérieur, Sécurité et Justice rassure quant à l'implication de tous les services de sécurité de la ville en vue de garantir la sécurité des passagers sur le trafic urbain.
Le président Félix-Antoine Tshisekedi a déploré dimanche 25 juin à Mbujimayi une certaine dérive constatée au sein de l'Église catholique. Cette question a fait l'objet de l'émission Dialogue entre Congolais d'hier, présentée par Dona Madimba. Giscard Koussema, directeur adjoint de la cellule de communication de la présidence de la République, qui est intervenu dans cette émission tout en rappelant que le chef de l'État a beaucoup de respect à l'égard de l'Église catholique, évoque néanmoins l'attitude de cette Église face notamment à l'agression du pays dans sa partie Est. On écoute un extrait des propos de Giscard Koussema.
Aujourd'hui, grâce à cette diplomatie du chef de l'État, il a été démontré par tout le monde, y compris par les Nations Unies elles-mêmes, que c'est le Rwanda. Au niveau de l'Église, on ne sent pas. Cette question-là concerne seul le président Tshisekedi. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on sent dans certaines prises de parole et dans certaines postures publiques qu'il y a de partialité, alors que le rôle de l'Église, c'est celle d'être au milieu du village, ça on le sait. Dans un contexte électoral, certaines prises de parole sont ouvertement comprises comme étant des partis pris. On a vu un débat social, c'est pas un débat institutionnel, parce que cette question sur la loi de la nationalité n'a jamais été prise par une institution comme la présidente de la République. C'est un débat public, mais on a senti dans les chefs de certains princes de l'Église, carrément un parti pris, ils ont pris fait et cause pour certaines personnes. L'Église se range d'un côté.
En réaction, Mgr Donatien Cholet, un autre intervenant dans cette émission, rappelle quelques actions entreprises par l'Église catholique pour entre autres dénoncer cette guerre qui touche la partie orientale de la RDC. Suivez la réponse de Mgr Donatien Cholet, secrétaire général de la Conférence nationale épiscopale du Congo, CENCO, à ces allégations.
Au mois de novembre, dans leur assemblée plénière extraordinaire, les évêques ont sorti un message « Le pays est en danger, mobilisons-nous ». Dans ces messages, ils ont cité explicitement le Rwanda. Le 4 décembre, ils ont invité le peuple congolais à marcher pour protester. Est-ce qu'il y a meilleur soutien que ça? Ça, c'est un. Deux, nous venons d'une mission de plaidoyer, parce que dans ces messages-là, la CENCO a dénoncé l'hypocrisie de la communauté internationale. N'est-ce pas parler le même langage que le chef de l'État? N'est-ce pas accompagner le pouvoir? Le deuxième exemple, il a fait allusion sans le citer, la proposition de loi Tchane. Il a parlé de la nationalité. Il a considéré que les prises de position de l'Église sont allées d'un côté. Or, la prise de position de l'Église s'est référée d'abord à la Constitution. Ça signifie que la Constitution devient à côté. et en réagissant contre, alors que l'Église justifie sa position par rapport au respect de la Constitution, par rapport à la cohésion nationale, l'Assemblée plénière dit « Soyons unis ».
Tous ces extraits ont été sélectionnés par Guy Matetsongo. Dans l'actualité, est noté aussi le début hier des dépôts des candidatures à la députation nationale pour les élections de décembre 2023. À Lubumbashi, le bureau de réception et traitement des candidatures, BRTC, accueille les candidats intéressés par ce scrutin. La plupart promettent de tout faire pour déposer à temps les dossiers afin d'éviter tout désagrément de dernière minute. Jean Gandoussi est rendu. Voici son reportage.
Pour cette première journée, quelques personnes sont passées au BRTC pour avoir les explications sur la procédure à suivre avant de déposer les dossiers. Parmi elles, on a noté la présence des candidats indépendants, des mandataires des regroupements politiques et ceux de partis politiques. Ils ont trouvé tout le personnel en place. Les assistants réceptionnistes, les juristes et vérificateurs, l'opérateur de saisie, les informaticiens munis de toutes les machines nécessaires pour cette opération ainsi que le président. La plupart des candidats se sont limités auprès des assistants réceptionnistes où ils ont reçu toutes les explications inhérentes à cette étape du processus électoral. Parmi les premiers qui ont franchi les BRTC, il y a Chenge Kauma de la Convention pour la République et la Démocratie CRD, parti chez Rambosso Kodiampuanga.
Ils sont venus se renseigner à la CENI parce que selon la date prévue par la CENI, que c'est aujourd'hui que les activités devraient commencer, les bureaux sont ouverts. Ils sont venus pour présenter d'abord les mandataires et aussi avoir des informations nécessaires pour les documents que les candidats doivent déposer à la CENI pour les élections de 2023.
À noter que d'autres candidats nous ont indiqué que pour l'instant, ils cherchent à réunir tous les documents exigés par la CENI pour éviter qu'ils ne soient écartés de la course. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Vous le savez, la Commission électorale nationale indépendante a convoqué le corps électoral pour la députation nationale. La CENI a donc ouvert ses bureaux sur toute l'étendue du pays pour la réception et l'examen des dossiers des candidatures des futurs députés. La population quinoise, qui devra, comme tous les Congolais, élire ses représentants, donne ici le profil des candidats qui peuvent postuler. Écoutez ces Quinois que Anne-Célestine Mibé et Chris Bandundu ont rencontrés dans les rues de la capitale.
Il faut de l'éthique, bonne probité morale. Nous voulons quand même les gens qui ont des valeurs à prôner. Donc ce sont de telles personnes que nous avons besoin pour la mandature prochaine.
Un candidat député ne doit pas être manipulable, cupide. Il ne doit pas céder à n'importe quelle pression pour sacrifier l'intérêt du peuple.
Il doit vivre avec la population, il doit connaître les soucis réels de la population et il doit être dans la population. Et non prendre quelqu'un qui vient de 50 000 kilomètres, qui vient postuler à Tchango par exemple, et qui ne connaît pas effectivement les soucis et les souffrances de la population de Tchango.
Ils vous promettent des choses qui vraiment vous garantissent que non, si on le vote, ça ira. Mais une fois qu'il sera voté, rien du tout, absolument rien de tout, ça n'est réalisé. Donc on voit combien de fois on a trahi notre confiance. Lui s'est renseigné sur les antécédents. Auparavant, il travaillait comment? Est-ce que c'était juste un chômeur? Comment est-ce qu'il gagnait de l'argent?
Les gens qui vont voter des lois pour les intérêts de la population.
Actualité internationale.
Perpétuité requise contre un ex-gendarme rwandais jugé en France pour génocide. L'ex-militaire est poursuivi à Paris pour crime de génocide, crime contre l'humanité et entente en vue de commettre ces crimes commis en avril 1994 dans la préfecture de Butare dans le sud du Rwanda. Un réquisitoire sans surprise où l'attitude de l'ancien adjudant chef rwandais au cours du procès a pesé lourd. Et puis, une experte de l'ONU dénonce le traitement inhumain des détenus de Guantanamo. La rapporteuse spéciale sur les droits de l'homme et la lutte antiterroriste de l'ONU, qui a eu accès à la prison militaire de Guantanamo, a dénoncé dans un rapport publié lundi le traitement cruel, inhumain et dégradant des 30 derniers détenus. Les États-Unis, eux, ont exprimé leur désaccord avec de nombreuses affirmations d'un document qui ne reflète pas la position officielle des Nations Unies. C'est la fin de ce journal, supervisé par Pele Kipela Mondo, Jean-Noël Mokondo à la mise en onde. Merci de votre attention.